Bonsoir chers amis, nous sommes donc le 24 mars et nous avons aujourd'hui le sixième portrait philosophique du Christ que je vais vous présenter, celui que brosse Hegel. Hegel 1770-1831, donc c'est le troisième allemand que nous lisons dans la série de Kant, Lessing, Hegel, et je vous ai mis en exergue là une petite sentence de Eckhart, maître Eckhart, dominicain qui a vécu longtemps à Erfurt, et qui disait ceci: l'œil avec lequel Dieu me voit est l'œil avec lequel je le vois. Mon œil et son œil ne sont qu'un. Mon œil et son œil ne sont qu'un. Donc c'est l'idée que il y a un face-à-face entre Dieu et l'homme, et que ce face-à-face est très important de part et d'autre pour finalement constituer et l'un et l'autre. Donc ça, c'est l'idée. Il y a une réciprocité, une dialectique entre Dieu et l'homme qui est extrêmement étroite. Et on ne peut pas dire, tiens, il y a Dieu d'un côté que personne ne regarde, ou bien il y a l'homme de l'autre côté qui ne regarde pas Dieu, et puis tout récemment, leurs regards se croisent. Non, impossible. C'est dans un échange continuel de regards que se constitue, d'une certaine manière, l'œil de Dieu et l'œil de l'homme. Alors, je vais essayer de vous présenter donc Hegel, qui est un auteur, comme chacun sait, très difficile, que j'ai étudié pas mal. Ce n'est pas encore pour cela que je vais pouvoir vous faire les choses extrêmement simples, mais voilà. Je l'ai étudié en effet puisque en 1983, j'ai traduit ce livre, La Christologie de Hegel, de mon ami Emilio Brito. Je l'ai traduit de l'espagnol au français. Bon, ça nous fait à peu près 700 pages, hein, où j'ai baigné là dans... de l'hégélianisme, et moi-même j'ai fait donc une étude qui a été publiée également sur le péché originel chez Hegel. Voilà, ça c'est un travail qui a été publié, que j'ai terminé en 1987, qui a été publié ensuite. Hegel est ce qu'on appelle un idéaliste. Alors on dit souvent qu'il a les trois grands idéalistes, hein, Fichte, Schelling et Hegel. C'est Hegel lui-même qui classe les idéalistes en idéalistes subjectifs, Fichte, objectifs, Schelling, et absolu, moi-même. Voilà. Hegel est donc ce qu'on appelle un idéaliste. Il est même le plus grand des idéalistes allemands. Et par rapport aux cinq auteurs que nous avons étudiés jusque maintenant, voici comment il va se situer dans sa vision du Christ. Par rapport aux autres, il trouve lamentable la platitude morale de Rousseau, de Kant, de Lessing. Dire que Jésus est un moraliste, bon ben, c'est vraiment une platitude. Il admire la profondeur de Spinoza. Et sans le connaître, il ne connaît pas Pascal, mais il partage son pathos, par rapport au Christ. Pascal excepté, aucun n'a accordé d'importance jusqu'ici à la passion du Christ, à sa résurrection. Pascal, comme vous vous souvenez, disait que le Christ est à l'agonie jusqu'à la fin du monde. La passion était pour lui quelque chose de très important, pour Pascal. Et bien pour Hegel aussi. En effet, il va appeler sa philosophie un vendredi saint, spéculatif. Toute sa philosophie, c'est un vendredi saint, Karfreitag, spéculatif, évidemment, pour la pensée. Il y a un événement dans l'histoire, mais lui donne le sens de cet événement, sens absolu. Alors bien sûr, on peut quand même dire que Kant soulignait souvent les souffrances du Christ. Dans le texte que je vous ai donné, plusieurs fois, il signale les souffrances du Christ, ce qui donne quand même un peu moins d'abstraction à sa réflexion. Ce n'est pas que un principe moral abstrait. Il voit le Christ qui souffre, mais il ne fait rien de ça. Enfin, il ne va pas beaucoup plus loin que de constater que voilà, ben, c'est admirable puisque le Christ a souffert. Comme idéaliste, Hegel est fasciné par l'absolu. Il se demande comment l'infini, est un philosophe idéaliste, hein, comment l'infini, auquel il pense tout le temps, puisqu'il est un philosophe idéaliste, comment l'infini peut entrer en contact avec le fini que nous sommes ? Et comment nous, qui sommes finis, nous pouvons entrer en contact avec l'infini, ce que nous pouvons en penser, en savoir, et quel est le rapport qu'il y a entre les deux ? Il y a ce rapport, voilà justement, cette petite citation de Eckhart vous en dit déjà quelque chose. Hein ? L'œil avec lequel Dieu me voit et l'œil avec lequel je le vois. Cette vision croisée constante et constituante. Alors, Hegel a connu une évolution dans sa pensée. Il y a le système de Hegel, on parle souvent du système de Hegel, et le système de Hegel, en effet, je dirais, il est bouclé quand il a 50 ans, quand il est professeur à Berlin. À partir de 1821, il va professer à les leçons sur la philosophie de la religion à Berlin. Je vais vous en parler donc dans la troisième partie. Il a professé, comme vous voyez, ses leçons en 21, 24, 27, 31. Tous les trois ans, il reprenait ses leçons sur la philosophie de la religion. Mais avant cela, il a d'autres écrits. Il a les écrits de jeunesse et surtout, il y a la phénoménologie de l'esprit, qui est un chef-d'œuvre très compliqué et dont je vous ai d'ailleurs donné une feuille, hein, que nous allons essayer de lire. Cette feuille de la phénoménologie de l'esprit vous parle de l'incarnation du Christ, du Verbe, dans Jésus-Christ. Mais si vous lisez le texte, on se demande où est Jésus-Christ, parce que tout ça est en termes très abstraits. Le texte qu'on va lire des leçons sur la philosophie de la religion, lui, porte plutôt sur, justement, la mort du Christ en croix, hein, et son impact sur la personne du Christ, mais aussi sur la culture, hein, sur la civilisation. Donc, Hegel connaît lui-même une évolution compliquée, passionnante, que j'ai déclinée là avec six œuvres qu'il a écrites, dont je vais un peu vous parler. Et dans la question que se posaient les cinq, est-ce qu'il faut choisir entre la raison et l'histoire ? Est-ce que les vérités éternelles peuvent nous advenir par quelqu'un qui tout à coup est né à tel endroit et qui va vivre un peu, hein ? Et puis, cette vérité éternelle est dite par cet homme-là. Mais si c'est une vérité éternelle, il n'y a pas besoin que quelqu'un nous la dise. Chacun l'a dans sa tête, a priori, en réfléchissant. Hein ? Donc, c'était la question de Lessing. Est-ce que des vérités éternelles peuvent nous arriver de manière contingente ? De manière accidentelle. Et il se posait la question, raison ou histoire ? Raison ou histoire ? Alors on voit bien qu'avec Spinoza, on est sub specie eternitatis, ça veut dire hein, sous la forme de l'éternité. Donc il n'y a que ce qui est éternel, qui est vrai et qui vaut la peine d'être dit. Ce qui est historique est contingent, ce sont des accidents de l'histoire qu'on oublie tout de suite parce qu'ils ne nous apportent rien au niveau rationnel. Hein. Ce qui est rationnel nous vient a priori dans notre esprit. Eh bien, Hegel se pose cette question. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Et au début, bon, eh bien, il pense un petit peu comme Kant, qui croit que l'histoire n'est pas importante, hein, que Jésus est un exemple, mais en fait, on n'a pas besoin d'exemple. Hein. Si on avait vraiment une conscience droite, on n'a pas besoin d'exemple, ni bon, ni mauvais non plus d'ailleurs. On ne peut pas hein, dire « j'ai suivi un mauvais exemple ». Non, ce n'est pas suffisant comme excuse. Il se pose la question, est-ce que l'histoire peut nous apporter quelque chose hein, de la vérité ? Eh bien, Hegel connaît l'histoire, il étudie l'histoire, c'est un siècle où on travaille beaucoup l'histoire, hein, je vous ai dit, les historiens allemands, les linguistes allemands qui vont étudier les langues et donc les civilisations étrangères, lointaines dans le temps, Hamann, Herder, hein, ces gens-là et d'autres bien sûr, qui creusent le passé hein, de l'humanité et qui découvre toutes sortes de choses intéressantes aussi pas intéressantes mais enfin voilà, c'est toute cette épaisseur de l'histoire que ce siècle allemand découvre et là-dedans il n'y a que de la paille, il n'y a rien d'autre que des choses accidentelles et inutiles parce que tout est dans notre tête. Où est-ce que cette histoire nous dit quelque chose de la vérité? Ça donc c'était la question de Lessing hein. Et en fait, Hegel, donc, il est entré au séminaire pour être pasteur à Tübingen et il rencontre là eh bien, ses amis Schelling et Hölderlin. Hölderlin, un grand poète qui terminera pendant des années, il sera à peu près fou, à peu près voilà, dérangé. Mais il a écrit des poésies merveilleuses Eschelin, qui est devenu aussi un grand philosophe, qui était plus jeune que lui de 5 ans, et qui a eu obtenu une célébrité philosophique beaucoup plus tôt que lui. Et donc, il est au séminaire avec ses deux amis, et donc son but, c'est quand même d'être pasteur, ça veut dire de s'occuper de pastoral, de s'occuper du peuple, et finalement de l'éducation religieuse du peuple. Et donc, il a quand même le souci que la religion promeuve une éducation religieuse populaire. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Il faut que tout le monde puisse connaître les grandes vérités de la foi et peut-être de la philosophie, mais il n'est pas encore vraiment dans la philosophie. Il quittera ce séminaire de Tübingen que j'ai visité avec mon ami Emilio Brito. J'ai visité ce séminaire, j'ai vu la chapelle dans laquelle ils ont prié, nos trois séminaristes là, qui sont devenus ensuite philosophes ou poètes. Voilà, il quitte ce séminaire et bon, il se lance dans la philosophie et il devient progressivement un philosophe qui enseigne dans différents lieux. Il va voyager pas mal, il sera à Berne, et puis à Francfort, et puis à Iéna, et puis finalement à Berlin. Et le voilà donc qui écrit à l'âge de 25 ans une Leben Jesu, une vie de Jésus. Il a 25 ans, il vient de quitter le séminaire, il est philosophe, et il écrit une vie de Jésus. Il compose sa vie de Jésus qui est d'une allure très kantienne, très kantienne. Il n'est pas encore à ce moment-là, hégélien, si j'ose dire. Il est kantien. Hegel présente le Christ comme le prédicateur d'une pure religion morale. Il copie un peu Kant, qui ne voit pas très bien ce qu'on peut dire de plus. Sous sa plume, la bonne nouvelle devient un interminable sermon sur la vertu, sur l'autonomie morale. Comme si Jésus avait fait tous ses sermons kantiens, quoi. Sur la moralité, l'autonomie morale, etc. Mais on peut considérer quand même ce Leben Jesu comme un essai d'établir l'idéal religieux de la vertu, en la mettant dans la bouche de celui en qui le peuple reconnaît son sauveur. Donc voilà, il remarque quand même cela. C'est qu'ancien, d'accord, mais enfin Kant c'est l'université, Jésus c'est qu'ancien, mais il parle au peuple. Et le peuple le reconnaît comme son sauveur. Donc il a un point de plus que Hegel, que Kant, pardon. Donc voilà, Jésus, selon Hegel à ce moment-là, a enseigné une morale d'autonomie, comme Kant, mais il a quand même réussi à parler au peuple. Ça c'est bien. C'est un peu spinoziste, vous vous souvenez que voilà, c'est ce que Spinoza trouvait de bien aussi chez Jésus, le summus philosophus, mais qui est capable d'annoncer le salut aux ignorants, le salut des ignorants. Mais à la fin quand même de cette Leben Jesu, il a un problème. Comment se fait-il que les églises chrétiennes, au lieu de faire de la morale, enfin ils en font aussi, mais ont imposé toute une série de dogmes positifs, des choses qu'il faut croire, des choses qui n'ont rien à voir avec la morale, mais qui ont à voir avec la pensée. Et voilà, il faut croire tout ça. On ne comprend pas, tant pis, il faut croire. Pourquoi cela? Il s'interroge. Voilà, il a 25 ans. Un peu plus loin, il écrit sur la positivité de la religion chrétienne. La positivité au sens d'une religion positive, ça veut dire une religion révélée qui tout à coup vient avec des nouvelles vérités auxquelles on n'avait pas pensé. Au fond, il répond à cette question, à la dernière question que je vous ai mentionnée. Comment se fait-il que les églises ne fassent pas que de la morale, mais enseignent des dogmes? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On n'en sait trop rien, mais pourquoi ces dogmes? Voilà, ça c'est la question qui se pose. Pourquoi ces dogmes? Est-ce que c'est utile d'avoir ces dogmes? Est-ce que ça aide la morale? Mais s'il n'y a pas que la morale dans l'Église, alors bon, les dogmes sont peut-être utiles quand même, mais pourquoi? Eh bien, il s'efforce de résoudre ce problème dans cette étude intitulée « La positivité de la religion chrétienne » et maintenant, son attitude se fait plus critique par rapport à certaines choses. Par exemple, il souligne que Jésus lutte contre le moralisme, le légalisme juif. Voilà, Jésus a quand même eu beaucoup de controverses, il n'est pas qu'un moraliste justement, il attire l'attention sur sa propre personne. Il dit « celui qui croit en moi aura la vie éternelle », etc. Mais est-ce qu'il faut ça pour la morale? Est-ce qu'il faut regarder Jésus pour être moral? Donc il s'étonne que Jésus lutte contre le moralisme, le légalisme. Et au contraire, attire l'attention sur sa personne en disant « Je suis le pain du ciel, hein, descendu du ciel, etc. » Bon, toutes sortes d'affirmations quand même qui sont positives, qui sont entre guillemets dogmatiques. En tout cas, qui sont à la base de ce que les églises diront de dogmatique. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus attire aussi l'attention sur sa personne et que sa doctrine, d'une certaine manière, eh bien, fait partie de sa personne et inversement ? Jésus se voit conduit à exiger foi en sa personne. Mais, évidemment, dit-il dans cet écrit, bon, la constitution un peu spirituelle, médiocre des disciples, hein, qui ne savent qu'obéir, ben, ils ne comprennent pas très bien, ils retiennent les commandements, la morale, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris ce que Jésus disait de sa personne ? Est-ce que l'Église elle-même a compris ? Est-ce que ce que l'Église impose comme dogme n'est pas bon, un résidu de ce que les apôtres ont mal compris eux-mêmes, de ce que Jésus voulait dire ? Est-ce que l'Église n'a pas restauré l'esclavage des Juifs sous la loi ? Vous voyez qu'il parle franco, hein ? Donc, il parle comme ça. Hein ? Mais il réfléchit quand même sur la base des évangiles qu'il lit et relit. Hein ? D'ailleurs, vous allez voir qu'il cite souvent de Saint Jean, une fois de plus, hein. À la fin de cette période d'enseignement à Berne, voilà, on discerne clairement une opposition hein, de Hegel à Kant. Une opposition de Hegel au moralisme, à la religion purement morale. Alors qu'au fond, il était parti de là. Hein. Et il se demande si le contenu rationnel de la foi que Jésus exige, il y a un contenu rationnel, hein. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, tout ça c'est... Est-ce que ce contenu rationnel de la foi n'exige pas une médiation historique ? Ça veut dire justement, réponse à Lessing, hein, c'est dans l'histoire qu'on apprend tout à coup qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est dans l'histoire qu'on apprend ça, c'est pas dans sa tête. Hein. Est-ce qu'il se demande donc si, bon, le moralisme de Kant, a priori, bon, il en a peut-être assez, mais est-ce que même au niveau de la raison, est-ce que la raison seule peut connaître des choses ? Ou est-ce qu'on les lui annonce, on les lui révèle dans l'histoire ? Elle se manifeste au cours d'une histoire qui pourtant paraît contingente, paraît accidentelle, paraît anecdotique. Voilà. Donc, question qui se pose après, à partir de ce deuxième petit écrit... de jeunesse, petit écrit, mais ça fait quand même chaque fois 70 pages, hein, donc il travaille, le bonhomme. Ensuite, une série de fragments qu'on a mis sous le titre « L'esprit du christianisme et son destin », fragments donc qu'il écrit voilà, en 2-3 ans. Ce n'est pas un écrit achevé, ce sont des fragments qu'a étudié Olivier Depré, qui est justement un ancien du Collège Saint-Michel, qui est professeur à Louvain-la-Neuve. Et là, on voit un nouvel infléchissement. Dans ces textes qu'il écrit à Francfort, cette fois-ci, Jésus tend à être innocenté de toutes les critiques qu'on lui a faites, de positivité, de moralisme, etc. La critique du judaïsme est encore plus sévère qu'avant. Par exemple, Abraham déchire les liens de l'amour. Bon, vouloir sacrifier son fils, bah, il faut être fou, quoi. Hein, donc... D'ailleurs, Kant le disait aussi, il disait ça c'est pas de la vraie révélation, hein, ça c'est faux, il ne faut pas écouter ce texte hein, qui dit qu'un père veut tuer son fils, hein, non, c'est scandaleux, dans la Bible c'est scandaleux. Hein. Mais voilà, il ne pousse pas très fort l'exégèse au-delà de ça, mais quand même ça choque beaucoup de gens et c'est normal. Eh bien, Hegel dit la même chose, hein. Donc le judaïsme vraiment c'est une abstraction, c'est un moralisme, etc. Et d'ailleurs, Kant, finalement, eh ben, ne dépasse pas le judaïsme. Voilà, il les met maintenant tous les deux dans le même sac. Hein. L'un, c'est l'impératif catégorique à l'intérieur de lui, l'autre, c'est les 10 commandements à l'extérieur de lui, mais finalement, ce n'est pas autre chose que du judaïsme, de l'individualisme. Il faudrait, oui, suivre tous ces commandements, suivre ces impératifs catégoriques, mais parce qu'on a envie, parce qu'on les comprend, parce qu'on voit que c'est à ça qu'il faut adhérer. Parce que ce n'est pas extérieur à nous, parce que ça nous donne la vie. Il faudrait Oui, avoir cette morale, bon, sérieuse, bien sûr, peut-être pas trop rigide, mais sérieuse, mais avoir envie. Et comment va-t-on faire? Il faudrait qu'il y ait une inspiration, une Gesinnung, comme il dit, une Gesinnung. C'est quoi une Gesinnung? C'est un sentiment, mais pas Gefühl, qui est un sentiment un peu trop, je dirais, sentimental, un peu trop lié au corps, aux émotions. Un Gesinnung, c'est un sentiment qui est lié à la réflexion, à la méditation, hein, à la raison. Il faudrait une aspiration morale, un désir de faire les commandements. Bon, les commandements sont là, mais en même temps, j'ai le désir, j'ai vraiment une tendance à les observer. Et alors, il y aurait une unification. Alors, voilà la première fois hein, qu'apparaît l'idée de la Vereinigung, de l'unification de deux choses un peu opposées, comme ça, hein, les commandements avec leur dureté, et puis l'envie de faire quelque chose parce qu'on a envie de le faire, ben, les deux ensemble. Avoir envie d'observer les commandements. Comment va-t-on trouver une manière de supprimer la rigidité des commandements, Aufhebung, mais sans supprimer les commandements. Supprimer leur rigidité sans supprimer les commandements. Parce qu'il y a une Gesinnung, une tendance, une envie hein, de vivre selon les commandements. Comment est-ce qu'on va unifier, Vereinigung, ces deux opposés? Alors là, on commence à voir un peu la dialectique de Hegel qui se met en place. La Gesinnung, ce n'est pas la Gefühl, donc il y a différents types de sentiments. Mais voilà, il faut combiner les choses pour les réconcilier, les unifier. Et donc, dans ces fragments, l'esprit du christianisme et son destin, Hegel insiste sur la nouveauté de la religion de Jésus. La nouveauté de la religion de Jésus. Il attire l'attention sur sa personne, il veut qu'on ait une Gesinnung hein, pour observer les commandements, et il se dit au fond, mais Jésus a cette Gesinnung. Jésus a cette envie de vivre parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il entretient avec Dieu un rapport spécial. Il entretient un tout autre rapport que la plupart des hommes. La plupart des hommes sont passifs vis-à-vis de Dieu. Ils disent, bon, ben, Dieu est là, moi je suis ici, bon, ben, alors qu'est-ce qu'on va faire il est loin, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'avait dit, etc. Bon, donc, on est extérieur. Mais Jésus n'est pas extérieur. Il est très proche. Il entretient un rapport à Dieu qui devrait être le rapport de tout homme à Dieu. Et ce rapport à Dieu, ben, rendrait la loi facile. Ce serait cette Gesinnung. Voilà qui fait que, eh bien, tout ça devient évident. Tout ça devient évident et est fait avec dynamisme, avec force. En effet, tout homme est fils de Dieu. Mais Jésus se sent fils de Dieu d'une manière spéciale. Et il faudrait que tout le monde ait ce même sentiment. Vous voyez que ça évolue, hein? On avance dans la conception qui sera vraiment celle de Hegel. L'homme est fils de Dieu, bien sûr, la Bible dit partout, etc. Mais est-ce que nous nous sentons fils? Est-ce que nous avons un vrai sentiment, Gesinnung, filial vis-à-vis de Dieu? Ou est-ce qu'on dit, bah, il est loin, etc. Bon. Il est la vigne et nous sommes ses sarments, Jean 15. Est-ce que nous sentons ça? Est-ce que nous sentons que la vie divine nous traverse? Que nous sommes greffés, hantés sur le Christ? Est-ce que nous sentons ça? Est-ce que nous sentons que il y a une vie vivante de la divinité en nous qui se communique et qui transforme évidemment tout le rapport au monde, puisque le rapport à Dieu devient essentiel dans notre rapport au monde. Dieu n'est finalement rien d'isolé, dit-il dans ses fragments. Il n'a rien d'isolé, il est dans la communauté vivante des hommes qui veulent vivre hein, selon l'amour. Il insiste sur l'amour. L'amour est la fleur de la vie. Il faut vivre. Dieu est vie. Dieu est amour. Mais quel est le rapport que nous entretenons avec lui, qui est vie et amour, pour vivre et pour aimer, justement hein? Il faudrait que nous ayons, nous, ce lien profond avec lui que Jésus avait parfaitement, parce qu'il était un homme parfait. Alors, vous voyez qu'on approche là de l'idée de l'incarnation. Hein? On est proche là de Jésus, qui est un homme spécial au point d'être en communion parfaite avec Dieu, parce qu'il est Dieu. Il ne dit pas encore, hein, ce n'est pas encore sa théorie. Mais voilà. malheureusement, ce Jésus qui est en relation avec le Père et tout ça, ben c'est très bien. Donc là, il y a vraiment quelque chose, un plus hein, qu'on a découvert. Mais malheureusement, Jésus, il méprise la vie. Il méprise la vie. Pas de politique, hein, célibat, pas d'économie, être pauvre, etc. Donc, pour une religion populaire, ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché, ça. Hein. Parce qu'il faut que les gens puissent vivre dans une famille, dans une économie, hein, dans une politique. Comment est-ce qu'on va faire une Volksreligion, hein, une religion pour le peuple, avec quelqu'un qui, bien sûr, est en rapport avec Dieu, c'est très bien, mais qui finalement se détache trop du monde. Se détache trop du monde. Et d'ailleurs, eh bien, ce défaut de Jésus est signé finalement par son destin tragique. Hein. Il est exclu du monde, il est condamné. Voilà. Eh bien, c'est parce qu'il ne voulait pas du monde, le monde ne veut pas de lui. Saint Jean le dit aussi. Hein. Voilà, ça c'est quand même un problème. Hein. Parce que cette Gesinnung, cet amour, n'est pas une catégorie politique. Il faudrait que ce soit une catégorie politique pour Hegel. Hein. Si ce n'est pas un peu une catégorie politique, ce ne sera jamais une religion populaire pour tous. Comment est-ce qu'on va convertir les gens à quelque chose qui les éloigne de leur famille, qui les éloigne de leur profession, qui les éloigne de leurs décisions politiques. Jésus s'est coupé des sphères essentielles de la vie. Et donc, il a méprisé la vie, le monde l'a méprisé. Il ne porte le royaume de Dieu que dans son cœur. C'est pas suffisant. Il faut que le royaume de Dieu advienne ailleurs que dans son cœur. Bon, vous voyez que, il évolue, hein, ça va vite avec lui. Hein. Il comprend des choses, il critique d'autres, et petit à petit, il forme ce qui sera son système. Alors, un article qu'il publie en 1802, il a 32 ans donc, « Foi et savoir » est un article, en fait, où il combat la philosophie trop subjective de Fichte. Fichte a aussi une magnifique conception du Christ, mais qu'il trouve trop subjective, trop intérieure, hein, trop tournée vers le sujet, pas assez vers l'objet, vers le monde, vers la politique, etc. Selon lui, la religion devrait représenter une délivrance qui n'est pas que subjective, mais qui est objective. Hein. Un peu la théologie de la libération, hein, vous voyez. Parce que de toute façon, Dieu s'est incarné, alors là il parle d'incarnation, il s'est incarné dans le monde et par excellence en Jésus. Pas seulement Jésus, mais partout, hein, il s'est incarné, Dieu s'incarne dans le monde et il veut se réconcilier ce monde. Et voilà, il y a la réalité de l'incarnation de Dieu en Jésus qui malheureusement implique la mort de Jésus. Alors comment faire avec cette incarnation qui se termine mal? Donc, bon point, hein, il s'incarne, mais mauvais point, ça se termine mal. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer cette douleur et dire que ça se termine mal, mais que il est nécessaire que ça se termine mal pour que ça se termine mieux encore? Le concept ne doit pas désigner donc cette douleur infinie qui est présente dans l'histoire de Jésus comme simplement un moment absolument négatif, sans aucune répercussion ensuite. Il faudrait intégrer cette douleur infinie, parce que si on s'incarne, on s'incarne dans un être mortel qui doit mourir, et donc il meurt. Et en plus, il meurt de manière ignominieuse. Donc c'est bien de dire la vie, mais si on dit la vie, on doit dire la mort aussi. Il n'y a rien à faire. C'est pas possible autrement. Donc, dire que Jésus méprise la vie, oui, mais en mourant, il fait aussi quelque chose d'important par rapport à la vie. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, justement, il essaye d'intégrer de plus en plus hein, ce moment négatif de la mort de Jésus dans sa réflexion philosophique, le paradoxe chrétien. Parce que ça, c'est typiquement le paradoxe chrétien. Hein. Notre Sauveur est mort. Et c'est par sa mort qu'il nous donne la vie. C'est quand même un paradoxe. Eh bien, ce paradoxe, il faut l'intégrer philosophiquement. Pas à la manière de Fichte, qui fait déjà de très belles choses, mais qui n'intègre pas la négativité. Hein, qui reste trop subjectif, qui n'intègre pas l'objectivité et la négativité. Et finalement, est-ce que cette incarnation de Dieu qui se termine dans le Vendredi Saint est-ce que c'est pas un processus dans lequel Jésus advient à quelque chose, et au fond, dans lequel Dieu lui-même, l'absolu lui-même, advient à quelque chose. Est-ce que ce ne sont pas des moments d'un auto-devenir? Voilà, ça c'est la question. Parce que la réelle philosophie de Iéna, l'écrit suivant, eh bien, il revient sur cette idée de la mort de Dieu, la mort de Dieu. Dieu est mort, si Jésus est Dieu, ben Dieu est mort. C'est quand même impressionnant. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est mort? Cet homme effectif, magnifique, il s'est incarné, mais il est effectivement mort aussi. Eh bien oui, il faut introduire à l'intérieur de la philosophie cette donnée du Vendredi Saint spéculatif. La mort est essentielle. On ne peut pas dire que c'est dommage qu'il soit mort sur la croix. Il faut dire que c'est essentiel qu'il est mort sur la croix. Mais comment est-ce qu'on va le dire? On voit ici que les idées essentielles de la maturité de Hegel sont déjà là. Il y a la phénoménologie de l'esprit dont je ne vous dis rien, parce qu'on va lire un texte, 1807. La phénoménologie, c'est un long ouvrage, très difficile à lire, très compliqué, où il cherche encore son vocabulaire, où il parle, il jargonne vraiment terriblement, et on le verra donc dans le texte que nous allons lire. Je prends les leçons sur la philosophie de la religion. Donc ça, ce sont les textes de sa maturité. Donc il a déjà son système, si on veut, son système qui consiste dans la logique, et puis dans les leçons, et puis dans la phénoménologie. Dans la phénoménologie et puis dans les leçons. Alors, dans les leçons, je vous voyais que j'ai décliné ça, Dieu en général, Dieu amour et Dieu esprit. Et puis Dieu Trinité, Dieu créateur, et puis Jésus-Christ, l'homme, Dieu parfait. Dieu en général. Il prend deux citations de Saint Jean, mais il se dit, moi je cherche qui est Dieu, Saint Jean me dit, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4,16. Voilà, je tiens ici une définition de Dieu. Dieu est amour. Mais je lis en Jean 4, 24, donc dans l'Évangile, pas dans la lettre. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Pas d'amour là-bas. C'est la vérité. Alors quoi? Dieu est amour ou Dieu est intelligence ou esprit ou est vérité ou quoi? C'est un peu deux choses différentes. Ou bien est-ce que c'est la même chose? Ah! Donc, si c'est la même chose, c'est que l'amour est esprit. C'est que l'intelligence, l'esprit a à voir directement avec l'amour. Il y a une force rationnelle, spéculative de l'esprit qui est équivalemment amour. L'amour, c'est pas simplement des sentiments affectifs et des embrassades, c'est aussi de la spéculation. L'amour, c'est d'unifier des choses difficiles par amour. Donc voilà, il part de ces deux définitions. Dieu est amour, Dieu est esprit. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué que Saint Jean, à ces deux définitions, on vous dit, c'est très bien, Saint Jean, c'est toujours vrai, Saint Jean, mais est-ce qu'alors il faut dire que l'amour égale l'esprit, l'esprit égale l'amour? Hegel se veut le fidèle interprète de chacune de ces deux citations, mais c'est la seconde, celle qui dit Dieu est esprit, à laquelle il accordera finalement le plus de poids. Ceux qui l'adorent, c'est en esprit, en vérité, qu'ils doivent l'adorer. Ça veut dire finalement, en pensant, comme philosophe, on adore Dieu. Si par l'esprit philosophique, on cherche Dieu en vérité, on l'adore et on l'aime. Alors maintenant, on va entrer dans des spéculations. Le Dieu Trinité. Le Dieu Trinité, voilà un dogme de la religion chrétienne. À quoi ça sert ce dogme? Parce qu'on dit en plus que Dieu est Trinité avant même la création du monde. Donc ça n'a rien à voir avec la création du monde, soi-disant. Et Dieu est Trinité, donc comment est-ce qu'on sait ça? On n'en sait trop rien. Enfin bon, les pères grecs ont trouvé des explications. C'est quand même dans l'histoire que le Dieu Trinité se révèle. Ah bon, les vérités éternelles qui se disent dans l'histoire, Hegel les accepte. Mais il les réduit, si on veut, à quelque chose de plus intellectuel. Bon, Dieu, on vous dit Dieu. Alors Dieu, il est tout. Il est tout et hors de Dieu, il n'y a rien. Bon, il est un, il n'y a que lui, tout le reste est néant. Mais cette situation est vertigineuse. C'est un défi pour Dieu d'être tout et qu'il n'y ait rien en dehors de lui. Car il est censé s'environner par du néant et se demande, mais est-ce que je suis tout ou est-ce que je suis rien, si j'ose dire, hein? Parce que ce néant qui m'entoure, il va m'absorber. Si je fais rien que de dire que je ne suis pas le néant, je suis égal à ce néant, hein? Si je ne peux me définir que par rapport à autre chose que moi, et que cette autre chose que moi, c'est rien, alors je suis rien, quoi. Bon, vous voyez que ça tourne, hein. Pour être vraiment Dieu, Dieu devrait sortir dans le néant et dire « je ne suis pas ce néant ». Ne pas avoir peur de ce néant. De ce néant qui semble le menacer. Le dogme de la Trinité est une représentation de cette vérité métaphysique, hein, que l'être, c'est pas simplement il est, mais qu'il est parce qu'il vit et parce qu'il devient et parce qu'il est quelque chose, et pas simplement il est. Hein. Il est, c'est abstrait, indéterminé. Alors je vous donne une petite devinette. Hein, bon, si l'être est et que le néant menace l'être, si on veut, on va mettre ça ensemble et ça va faire quoi? Être plus néant égale quoi, hein? Être quelque chose qui n'est ni l'être ni le néant, mais qui participe à la fois de l'être et du néant, qui fait la synthèse de l'être et du néant. Parce que c'est toujours comme ça que Hegel fonctionne. On a vu comment il en est arrivé là. Il prend une position kantienne, par exemple, et puis il dit, il faut plutôt du sentiment pour... et comment est-ce qu'on va unifier la rigidité de la loi avec le goût pour faire la loi, en perdant la rigidité mais pas la loi, etc. Bon, il est tout le temps dans ce jeu, hein, thèse, antithèse, synthèse, comme on dit. Alors, quelle est la synthèse entre l'être et le néant?
L'homme,
oui, en partie, oui, c'est vrai, mais de manière plus abstraite.
Le devenir.
Hein. Le devenir. Quand quelque chose devient, est-ce qu'il est? Il n'est pas encore, mais il est déjà. Hein. Il est déjà, mais pas encore. Hein. Donc il participe au néant parce qu'il n'est pas vraiment ce qu'il devrait être, mais il participe à l'être parce qu'il l'est déjà virtuellement, hein, potentiellement. Eh bien Dieu, c'est la même chose en fait. Hein. Dieu est l'être, mais dans sa confrontation au néant, il doit devenir pour être. Pour être vraiment, il doit cesser d'être simplement pour devenir. Pour devenir. Et c'est le processus. Hein. Ça, c'est la grande idée de Hegel, évidemment. Dieu étant... La vie de Dieu, c'est quoi? C'est un processus. Hein? Un processus qui est d'abord trinitaire. Un premier moment peut être isolé dans cette abstraction. Du commencement, c'est le Père, l'universel. L'abîme premier, sans nom, pro-arché, pro-pater, Dieu, hein? Le mystère infiniment profond, dont on ne peut rien dire, mais il est tout. Mais il est tout quoi? On ne sait pas. Hein? Cette abstraction est obscure, indéterminée, mystérieuse. Touffu, flou, brouillonne. Hein? Et d'ailleurs, il y a des mystiques qui disent ça. Hein? Duns Scott dit par exemple « Deus nescit se », « Dieu s'ignore ». Il y a comme ça des grandes formules, hein, où on se rend compte que Dieu, s'il n'y a que Dieu, il s'ignore massivement. Il est indéterminé. Et c'est justement dans sa relation au Fils que quelque chose va s'éclairer de ce mystère obscur. Il y a là un moment de rupture. Alors cette rupture, toujours, hein, Dieu sort de lui-même, il met hors de lui quelque chose qui n'est pas lui. C'est toujours ce moment de rupture, cette partition, cette scission, cette différenciation qui intéresse Hegel. Hein, le moment de rupture, eh bien, c'est l'engendrement du Verbe, le Fils éternel. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors Grégoire de Nyssa traduit, au commencement, ça veut dire quoi ? Dans le Père. Le commencement, ce n'est pas le commencement d'un temps qui n'existe pas, hein? Pas encore, ou je ne sais pas quoi, mais dans le commencement, ça veut dire dans le Père, dans le principe. Arché peut être compris à la fois temporellement, bien sûr, mais aussi comme principe, hein, métaphysique. De en arché, dans le commencement, dans le principe, était le Verbe. Le Fils était dans le Père. Voilà ce que ça veut dire, selon Grégoire de Nyssa. Eh bien, dans la profération du Verbe, le Père se révèle à lui-même comme ce qu'il n'est pas. Le Dieu caché se révèle dans la clarté du Verbe. Dieu se dit, et cette parole qui se dit, dit Dieu. Voilà ce qui était vide, irrationnel, incompréhensible, devient compréhensible. Le Verbe prononcé, eh bien, nous donne une détermination de ce qu'est Dieu. Mais cette détermination, ce n'est que ça. Donc Dieu qu'on ne connaissait pas, maintenant on le connaît dans le Verbe, et ce n'est que ça. Mais alors il n'est que clarté, il n'est que détermination. Non, il faut l'esprit, l'esprit qui réconcilie ces deux opposés, hein, l'obscurité et la clarté. Le principe et ce qui suit. Et l'esprit, eh bien, il surgit de cette double négation. Le Père se nie lui-même en engendrant le Fils. Et le Fils, eh bien, il n'est pas le Père. Donc, il nie le Père en s'affirmant lui-même. Mais ils vont se nier tous deux, chacun et réciproquement, dans l'esprit. Et c'est ce devenir de Dieu, hein, qui est vraiment Dieu. En fait, la personne la plus importante pour Hegel, et ça c'est une intuition intéressante, nous on imagine toujours que bon, Dieu c'est quand même Dieu le Père, hein, et puis à partir de lui tout commence, mais donc tout est en Dieu le Père, et puis donc c'est là que se trouve l'essentiel. Ben non, lui il dit non. En Dieu le Père, ben il y a rien, ou presque rien. En Dieu le Fils, il y a un peu plus. Dans le Dieu Esprit, ah, là on a tout. La personne la plus importante dans la Trinité, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint parce qu'elle fait la synthèse des deux autres qui, alors on ne savait pas très bien ce qu'elles étaient, hein, mais elles sont devenues ensemble, en se niant l'une l'autre et tout ça, en s'affirmant et se niant l'une l'autre, elles sont devenues l'Esprit. Dieu est Esprit. On l'a bien dit chez Saint Jean, hein, Dieu est Esprit. Il faut l'adorer en Esprit, en vérité. Donc, voilà, l'Esprit Saint est vraiment la personne essentielle dans la Trinité hégélienne, et donc c'est une personne qui, non pas est une, comme le Père serait une source qui, hein, qui fait jaillir hors de soi les choses, c'est au contraire un attracteur, hein, qui attire à lui et qui met en mouvement, hein, ce qui est, voilà, sorti de manière indéterminée du Père et du Fils. Le Dieu créateur. Eh bien, cette expression n'est que une manière de parler, parce que Dieu est créateur, mais il est toujours créateur. Enfin, il n'y a que le Dieu qui a créé. Vous en connaissez un autre, vous ? Ben non. Donc Dieu a créé. Oui, mais la spéculation chrétienne dit que Dieu aurait pu ne pas créer, mais qu'il a créé librement, mais etc. Bon, de facto, il a créé, donc bon, c'est le Dieu créateur. Il n'y a que celui-là, on ne connaît que celui-là. Et donc, quand on dit que il y a un acte créateur, ben cet acte créateur, c'est l'acte même de la vie de Dieu, selon Hegel. Hein. Ici, là, il sort un petit peu de la dogmatique classique. Voilà, ça ne signifie pas qu'il y a un avant temporel qui précède le temps, ou bien qu'il y a une préséance logique de Dieu par rapport au monde. Non, ils sont toujours en vis-à-vis, toujours en vis-à-vis. La vie même de Dieu, c'est cette Trinité dont je vous ai parlé, mais qui, au fond, est équivalente aussi à ben, la création. La création. D'ailleurs, ben Saint Paul dit bien dans les Colossiens, hein, tout a été créé par lui et pour lui, tout subsiste en lui, etc. Donc ben, c'est dans le Verbe que tout subsiste. Voilà. L'engendrement du Verbe et la création, ben, c'est la même chose. Alors c'est pas la même chose à tous les niveaux, hein, parce qu'il va faire beaucoup d'escalade, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour arriver à ça. Mais au total, hein, eh bien, on peut dire que la Trinité et la création, c'est le même mystère de Dieu. Et l'incarnation aussi d'ailleurs, c'est le même mystère de Dieu. Voilà l'acte créateur. Eh bien Dieu, en posant le fini, parce que cette fois-ci on n'est plus dans l'infini du Père, Fils et Esprit, mais en posant le fini hors de lui, eh bien il se déchire dans une scission primordiale, hein, absolue, etc. Bon là il y a tout un vocabulaire, hein. L'infini pose hors de lui le fini. En effet, il ne peut pas poser hors de lui de l'infini. Donc il pose hors de lui le fini. Mais si c'est du fini par rapport à l'infini, ce fini est comme rien. Il est comme néant. Il est comme rien. Mais pour être quelque chose, il pourrait l'être en revenant à l'infini, hein, en se laissant réattirer par l'infini et en communion avec cet infini, qu'il n'est pas. L'infini ne se prouve que comme infini qu'en niant le fini. Mais le fini ne se prouve comme fini qu'en se niant lui-même et en réintégrant l'infini. Ben voilà, c'est un petit peu le genre de spéculation qu'il propose, hein. Et donc, eh bien, cette création finie que Dieu pose hors de lui, c'est au fond un terme intermédiaire pour que Dieu se retrouve. Et c'est par le biais de cette création intermédiaire que Dieu devient Dieu. Et que nous aidons Dieu à devenir Dieu et que nous devenons Dieu avec lui d'ailleurs. Voilà un peu quelle est sa spéculation. La précarité du monde. Par la création du fini est posé comme différent de l'infini. Mais ce fini lui-même se dédouble, parce que tout se dédouble toujours, hein. Donc, thèse, antithèse, cette synthèse, puis la synthèse elle-même devient la thèse d'une antithèse, etc. Donc, Dieu pose hors de lui du fini, mais ce fini se dédouble. Comment est-ce qu'il se dédouble? Eh bien, par la nature objective et par la nature spirituelle, l'homme. Le monde inanimé, animé, enfin bon, qui n'a pas part à l'esprit, et finalement l'homme qui est à la fois du fini et qui a l'idée de l'infini. Voilà, la création elle-même se dédouble en nature et esprit fini. Alors ça c'est très important parce que ce dédoublement est un moment de plus dans l'exitus reditus. Vous connaissez cette expression, je crois que je ne l'ai pas encore dite. Exitus, ça veut dire sortie, et reditus, retour. Eh bien, Dieu qui crée, c'est il sort de lui-même, et la création revient en lui, donc il revient à lui-même. Exitus, reditus. C'est dans cet esprit fini, l'homme, que s'amorce le reditus, où le fini retourne en Dieu, et où Dieu finalement boucle sur lui-même et se prouve à lui-même qu'il est Dieu. Mais ça se fait dans le malheur de la conscience humaine. Parce que la conscience humaine, qu'est-ce qu'elle est la conscience humaine? Elle est attachée à la nature. Elle sort, elle jaillit de la nature. Elle est un produit de la nature. Mais elle est plus, parce qu'elle est attirée par l'esprit divin, par l'esprit absolu. Mais quand même, elle est attachée à cette nature. C'est ça le malheur de la conscience. Et donc la conscience souffre. C'est tout un travail du négatif, qui ressemble d'ailleurs à la passion-résurrection, hein. C'est tout un mouvement qui s'amorce. Et l'esprit continue, lui, à attirer l'esprit fini. Et donc, c'est l'esprit qui est finalement créateur, hein. Souvenez-vous de Romains 8, 19 à 16, la création tout entière soupire dans l'attente de la manifestation des fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est Jésus, mais c'est nous tous. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes nous possédons les prémices de l'esprit. Nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Pareillement, l'esprit vient au secours de notre faiblesse et intercède pour nous en des gémissements ineffables. Voilà, pour lui, tout ça, c'est l'Esprit Saint qui est créateur en nous détachant de la nature et en nous ramenant à l'intérieur de Dieu, si on veut. Alors, Jésus, là-dedans, eh bien, génération éternelle du Fils et création du monde, c'est pratiquement la même chose, hein, je vous l'ai déjà dit. L'acte éternel de la génération divine, le Verbe en Dieu et le phénomène temporel du monde sont à la fois différents et identiques. À la fois différents et identiques. Ça, c'est une formule que Hegel aime beaucoup, hein. Ces choses sont à la fois différentes et identiques. Il suffit de prendre un autre point de vue, quoi, hein. Elles sont à la fois différentes et identiques. Alors, grosso modo, pour la religion, ces deux moments sont différents. Mais pour la philosophie, qui fait un pas de plus, ils sont identiques. Tout en étant différents, hein. Mais ils annulent leur différence l'un dans l'autre. Et ils retrouvent cette réconciliation, cette vereinigung, hein, cette unification qui était si difficile. Et Jésus est un maillon extrêmement important dans cela. Alors pourquoi ? L'incarnation. Jésus, non d'abord l'homme sauvage. Hein, l'homme sauvage. Eh bien, l'homme qui arrive au monde, là, c'est un homme sauvage. Est-ce qu'il est bon par nature? Ben, pas du tout, hein. C'est Rousseau qui le dit, mais Hegel dit non, il est pas bon par nature. Il est bon potentiellement, mais il doit le devenir, parce qu'il est mauvais. Et de quoi est-ce qu'il est mauvais? Il est mauvais d'être naturel. Il doit nier sa nature pour accéder à la conscience, et en accédant à la conscience, il devient bon. En s'humanisant, il devient bon. En restant animal, il est mauvais. Alors, il est mauvais pas parce qu'il a commis une faute, non, mais parce que, voilà, c'est son point de départ. Le point de départ est toujours mauvais par rapport au point d'arrivée, si on veut. Hein. Ce n'est pas une question de bien et de mal, c'est une question de sortir du primitif pour accéder au spirituel. Et donc, le péché originel était nécessaire, ben, heureusement qu'on l'a commis, parce que sinon, on serait toujours des animaux, selon lui. La connaissance du bien et du mal, toute connaissance d'ailleurs, ben, c'est le but de l'homme. Donc il était plus que temps de sortir de ce paradis où on était un peu comme des animaux domestiques bien gentils pour commencer à lutter, pour accéder à notre humanité. L'homme primitif n'est pas un modèle pour Hegel. Alors là aussi, je vous ai montré ce livre, Le péché originel selon Hegel, ici je montre combien de fois il le dit partout, c'est que ce péché originel finalement était nécessaire. La faute d'Adam, c'est un récit contingent, mais qui nous apprend une vérité essentielle, c'est que l'homme doit transgresser ses limites naturelles pour accéder au royaume spirituel. L'incarnation. Cette image et ressemblance parfaite avec Dieu, nous n'en avons pas conscience. Vous avez conscience d'être image de Dieu, oui, plus ou moins, ressemblance, pas toujours, évidemment. Eh bien, il y a un homme, Jésus, qui tout à coup a pris conscience que en lui, il y avait l'image parfaite et la ressemblance parfaite avec Dieu, au point qu'il a pris conscience qu'il était Dieu. Le processus s'achève en lui parfaitement, c'est sûr, puisque c'est un processus lancé par Dieu, dans ce but-là de faire de nous des dieux. Jésus se rend compte, et c'est que c'est réalisé en lui, qu'il est parfaitement le Fils de Dieu. Alors là, Fichte d'ailleurs a de très très belles pages pour expliquer cela aussi, la prise de conscience de Jésus par rapport à la divinité. En lui, l'universel, le divin, est devenu conscience immédiate. C'est immédiat. C'est comme ça. Il le sait. En lui, Dieu a complètement pénétré la finitude, le monde, la matière naturelle, la matière humaine. Et Jésus se découvre fils de Dieu parce qu'il l'est. Il ne s'invente pas cette histoire-là, c'est vrai. C'est une réalité. Dieu s'est fait homme dans cet homme-ci. Dieu s'est fait homme dans cet homme-ci. Mais il faut encore que tous les hommes deviennent Dieu, comme lui. Ah oui, il faut que tous les hommes deviennent Dieu. Alors c'est là qu'il y aura le texte à lire de la phénoménologie d'esprit. La rédemption. Eh bien voilà, les hommes doivent devenir Dieu comme Jésus. C'est pas facile. Donc Jésus donne un enseignement qui est principalement l'enseignement de cette Gesinnung, qui nous invite à une obéissance amoureuse. Et pour la divinité, Jésus meurt dans sa passion. Et la mort signifie la fin du fini. Dieu qui est devenu fini, fini. Donc le fini finit et Dieu redevient Dieu. En Jésus, dans la mort, dans la passion du Christ, le fini finit et donc redevient infini. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous qui sommes finis, comment est-ce que nous pouvons devenir infinis, rendre hommage à l'infini en reconnaissant notre finitude et sans nous en désoler? Le plus bel hommage que le fini peut faire à l'infini, c'est de se déclarer fini. Et comment est-ce que je me déclare fini? En finissant. Donc, mourir, c'est un hommage à Dieu. Voilà, et c'est ce que le Christ a fait. Alors, il l'a fait dans des circonstances qui est que, mais je trouve que dialectiquement, c'est très intéressant. C'est accepter pleinement sa finitude et l'offrir à Dieu. C'est reconnaître que Dieu est Dieu. Et c'est le plus bel acte d'adoration que je puisse faire, selon Hegel, de reconnaître que je suis fini et que lui est infini. La résurrection, alors là, malheureusement, je dirais, lui, il dit que la résurrection n'est rien d'autre que l'effusion de l'esprit sur la communauté. La résurrection, ce n'est pas Jésus qui revient avec son corps, non, mais justement, il doit finir. Mais c'est son esprit qui passe dans la communauté, et Jésus ressuscite dans sa communauté, afin que tous les hommes deviennent comme lui, hein, unis à Dieu dans une conscience de plus en plus immédiate de leur, par la grâce, de leur qualité de divine, si on veut. Hein, de leur, oui. Alors, je prends le texte de la phénoménologie de l'esprit. Je vais peut-être prendre quelques minutes de plus, si vous voulez bien. J'ai mis un coup de marqueur là sur les phrases qu'on pourrait essayer de comprendre plus facilement. Voilà, donc c'est l'incarnation, hein, dans la phénoménologie de l'esprit. Tome 2. Que l'esprit absolu, Dieu donc si on veut, se soit donné en soi la figure de la conscience de soi. Se soit donné une conscience humaine, hein, où il prend conscience de lui-même. Et donc aussi pour sa conscience, se manifeste maintenant ainsi. Que telle est la foi du monde, que l'esprit est là comme une conscience de soi. Que l'esprit divin est là comme une conscience de soi. C'est-à-dire comme un homme effectif. Qu'il est là pour la certitude immédiate de lui-même et des autres. Que la conscience croyante voit et touche et entend cette divinité. Alors j'ai mis en note, hein, voit et touche et entend. Eh bien, c'est la première lettre de Jean, le premier verset qui dit... Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché. Hein? Eh bien voilà, ce qui était au commencement, ça veut dire le Verbe, Dieu, éternel. Hein? Nous l'avons vu, touché, entendu. Eh bien oui, c'est Dieu qui s'est fait homme. Ainsi, la conscience de soi n'est pas imagination, elle est effectivement en lui. La conscience ne sort donc pas de son intérieur en partant de la pensée, et ne rassemble pas au-dedans de soi la pensée de Dieu avant d'être là, mais elle sort de la présence de l'être immédiat et connaît Dieu en elle. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc ce n'est pas moi qui cherche Dieu dans les cieux et qui essaie de m'unir à lui. Hein, c'est ça qu'il veut dire, en, la conscience ne sort pas de son intérieur, en partant de la pensée, comme quelqu'un qui prie par exemple. Et je sors de moi-même et j'essaie de... Je rassemble dedans de moi la pensée de Dieu avec l'être là, je mets, hein, les deux ensemble, Dieu dans les cieux et l'idée de Dieu dans mon cœur. Non, 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 il n'y a pas cette sortie, c'est immédiat. Hein. Dieu est là, il n'y a pas besoin de sortir de soi pour le chercher, il est là. Alors je descends au bas de cette première page, mais ce Dieu devient immédiatement comme soi, comme un homme singulier, effectif. Le mot singulier est très important, hein, chez Hegel. Donc il y a universel, particulier, singulier. Logique, nature, esprit. Hein. Universel, Allgemeinheit, particulier, Besonderheit, singulier, Einzelheit. C'est toujours, le singulier, c'est toujours une synthèse de l'universel et du particulier. Voilà. Donc, un homme singulier, effectif, donné à l'intuition sensible, il est là comme conscience de soi. Un homme est conscient de soi d'être Dieu. Et ce n'est pas une imagination, c'est la réalité, et tout le monde le perçoit. Moi, je perçois que Jésus est Dieu, je perçois que je devrais être comme lui, mais que je ne le suis pas, moi. Mais lui, il perçoit qu'il l'est. L'accomplissement du concept de l'essence suprême... Ça, c'est donc Dieu, dans l'identité de l'abstraction qu'est Dieu et de l'immédiateté par le soi singulier. Donc, Dieu dans les cieux, hein, communie, s'identifie avec cet homme singulier. Cette incarnation de l'essence divine, ou le fait que cette essence a essentiellement et immédiatement la figure de la conscience de soi, donc une conscience humaine, tel est le contenu simple de la religion absolue. Vous voyez que c'est simple. Hein? Qu'un homme est conscient d'être Dieu, eh ben, voilà, c'est l'essentiel de la religion chrétienne. Que Jésus sache qu'il est Dieu et que nous sommes des hommes comme lui, ben c'est l'essentiel de la religion chrétienne, mais ce n'est pas faux. Hein? On dira, ben les choses les plus importantes de notre foi, ben c'est croire en Jésus-Christ qui est Dieu. Ben oui. En elle, l'essence vient à être sue comme esprit, ou la religion absolue est la conscience que cette essence a sur elle-même, la conscience d'être esprit. Bon, je laisse cela, je prends la page suivante. Là, vous voyez la table des matières de la dernière partie des leçons sur la philosophie de la religion. Ça se divise aussi pas mal en trois, mais pas toujours. Et donc, c'est sur la mort de Dieu. On a l'intuition de l'être là temporel, parfait de l'idée divine dans le présent, que dans la mort du Christ. C'est dans la mort du Christ qu'on voit que Dieu s'est parfaitement fait homme. Parce que si Jésus n'était pas mort, était filé au ciel comme je ne sais pas qui, on n'aurait pas été sûr que Jésus était un homme. Mais comme il est mort, on est sûr qu'il est homme. Et comme on était sûr qu'il est Dieu, on est sûr que Dieu est mort. Et quand on est sûr que Dieu est mort, l'aliénation suprême de l'idée divine. Dieu est devenu complètement le contraire de lui-même. Dieu est mort, Dieu lui-même est mort. Est une représentation prodigieuse, terrible, qui présente à la représentation l'abîme le plus profond de la scission. De la scission. Voilà, quand vous pensez à Dieu avant la création du monde et tout ça, c'est un abîme d'indétermination. Et quand vous pensez à la mort du Christ, c'est un abîme de détermination. C'est un abîme de finitude. Et c'est le même Dieu. Le Dieu profond, mystérieux, infini. Et ici, le Dieu complètement annihilé, Dieu aussi, mais complètement déterminé, annihilé, déchiré en lui-même. Toutefois, cette mort est aussi le plus grand amour. Vous voyez que revient l'idée de l'amour. L'amour est en effet l'identité du divin et de l'humain. La finitisation de la conscience est poussée à son point extrême, la mort. On a donc ici l'intuition de l'unité à son degré absolu, l'intuition suprême de l'amour. L'amour, c'est donner sa vie pour ce qu'on aime, c'est s'annihiler. La négativité, donc, pour Hegel. L'amour consiste en effet à renoncer à sa personnalité, à ses biens. C'est une activité consciente. La renonciation suprême à soi pour l'autre. L'autre avec un grand A ici, qui est Dieu. Comme je vous disais, le plus grand hommage que je peux rendre à l'autre, qui est Dieu, c'est de reconnaître que je ne suis pas infini, que je suis fini, et d'accepter ma mort. C'est un acte d'adoration. Mourir, pour Hegel, c'est le plus bel acte d'adoration que je peux faire vis-à-vis de l'infini. Ça a quand même une certaine force. La mort du Christ est l'intuition même de cet amour absolu. Non pour autre chose, non à cause d'autre chose, mais c'est la divinité en cette identité universelle avec l'altérité, la mort. C'est l'infini qui communie au fini. L'amour consiste dans cette prodigieuse union de ces extrêmes absolus. C'est l'intuition spéculative. Dieu est la synthèse des contraires, c'est le paradoxe chrétien. Mais on dit, Dieu s'est fait pauvre, Dieu s'est fait l'esclave de nous-mêmes, etc. Au sujet de cette mort, il faut remarquer encore cette détermination particulière. En effet, elle a été définie comme le point extrême de la finité. Outre que c'est une mort naturelle, tout homme doit mourir, c'est la mort d'un malfaiteur, la mort la moins honorable, la mort sur la croix. Alors là, suivez bien le raisonnement, parce que c'est typiquement hegelien, c'est pas trop difficile à suivre. Donc Jésus est mort d'une mort déshonorante. La vie extérieure est naturelle, immédiate, mais immédiate à l'égard de l'opinion d'autrui, honneur ou honte. Mon existence comme existence, c'est-à-dire dans l'opinion des autres, est ce pourquoi je passe auprès d'eux. Donc j'ai une valeur, j'ai un honneur, je suis objectif dans la mesure où je sais me faire valoir auprès des autres, où je suis pour eux considéré, ma considération est leur représentation à eux, qui résulte de la comparaison avec ce qu'ils estiment, ce qui est considéré par eux comme en soi, ce qui est considéré comme bien. Bon. La mort qui déshonore est la chose importante dans la mort du Christ. Donc vous n'avez pas envie de mourir de cette mort-là. Donc non seulement il est mort, vous n'avez pas envie de mourir, mais surtout pas de mourir de cette mort-là. Dans la mort naturelle, l'infinité, comme simplement naturelle, est également transfigurée. Mais ici, la transfiguration de quelqu'un qui meurt saintement, etc., est niée. En ce cas-ci, le déshonneur civique, la croix, est transfigurée. Donc c'est non seulement une belle mort, mais c'est une laide mort qui est encore plus transfigurée parce qu'elle était d'autant plus vile. La croix qu'on se présente comme ce qu'il y a de plus vil, l'instrument de déshonneur dont l'État dispose, cet instrument devient ce qu'il y a de plus élevé. Alors bon, est-ce que c'est important pour Jésus, pour nous ? Oui, mais suivez la suite du raisonnement. Ainsi, ce qui est considéré comme la chose la plus vile devient la plus noble. Toujours ce retournement dialectique. Hein ? Il faut voir là l'expression immédiate de la révolution achevée contre tout ce qui existe, tout ce qui a quelque valeur dans l'opinion. Si Jésus, qui avait le maximum d'honneur, est mort dans le plus grand déshonneur, eh bien, tout ce qui a honneur dans le monde n'a plus de valeur. Par sa mort déshonorante, il déshonore tout ce qui est honneur dans le monde. Il inverse les valeurs. Le déshonneur de l'existence devenu l'honneur suprême, tous les liens de la société humaine se trouvent en leur fondement attaqués, ébranlés, détruits. Donc la croix du Christ, selon lui, a vraiment une valeur politique, parce qu'il conteste l'ordre établi qu'il a condamné, mais qu'il a condamné injustement. Et donc il s'est déshonoré dans cette condamnation du juste. Quand ce symbole du déshonneur devient le drapeau, la cocarde et un drapeau dont le contenu positif est en même temps le royaume de Dieu, la disposition intérieure en sa plus grande profondeur est soustraite à la vie politique et à l'état social dont le fondement substantiel est enlevé, en sorte que tout l'édifice n'est plus une réalité, que son être intérieur n'est plus qu'extérieur. C'est une apparition creuse qui doit s'effondrer avec fracas, montrant aussi nécessairement dans l'existence qu'elle n'est plus en soi. Donc vous voyez ici le pathos de Hegel. Eh bien finalement, la croix du Christ fait s'effondrer l'Empire romain. Grosso modo, Et il y a quelque chose de vrai, parce qu'après il fait toute une étude sur l'histoire de la chrétienté, il montre à quel point cette force du paradoxe chrétien a ébranlé le monde et a retourné toute une série de valeurs, et même a eu des conséquences politiques et civilisationnelles énormes dans l'histoire. Voilà, je termine ici sur Hegel, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, excusez-moi. Donc nous nous retrouverons dans un mois seulement. Il y a maintenant toutes les vacances de Pâques. Et avant de vous parler de Kierkegaard, il va se passer quelques mercredis sans leçon.